Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Léniaud et vous êtes sur Le Gratin. Avec Le Gratin, je vous emmène toutes les semaines à la rencontre de personnalités toutes plus exceptionnelles, toutes plus bizarres, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Des chercheurs, des entrepreneurs, des athlètes ou des scientifiques qui ont tous un point commun, être parmi les meilleurs au monde dans leur domaine. L'objectif de tout ça, vous aider via ces mentors virtuels à devenir la meilleure version de vous-même. Cette semaine, je reçois sur Le Gratin Sabrina Erlori, directrice générale de la marque de cosmétiques MAC France. Si vous souhaitez la retrouver sur le monde merveilleux du web, lui faire un petit coucou par exemple, je suis sûre qu'elle sera ravie, eh bien allez tout droit sur son compte Instagram, c'est Sabrina Erlori tout simplement, ou pourquoi pas sur LinkedIn où elle est aussi active, je vous mets en tout cas tous ses contacts dans les notes de l'épisode. Alors qui est donc cette fameuse Sabrina Erlori? Vous ne la connaissez peut-être pas encore, mais je suis vraiment ravie de vous la faire découvrir parce qu'il y a bien une chose que j'apprécie, ce sont les femmes avec de l'ambition et un caractère bien trempé. Et je peux vous garantir que Sabrina entre dans ces deux catégories. Sabrina a connu une carrière éclair dans le secteur de la cosmétique. Elle a fait ses armes d'abord chez L'Occitane, comme responsable marketing, puis directrice marketing et enfin directrice générale France et Europe à tout juste 34 ans. Assez incroyable. Cette carrière fulgurante ne s'arrête pas là d'ailleurs, puisque Sabrina a pris il y a environ 3 ans et demi la tête de la marque MAC en France. Au-delà de ce parcours saisissant, j'ai voulu inviter Sabrina pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'aime mettre en lumière, comme vous le savez, des personnalités qui sont pas forcément médiatiques et des personnes de la vraie vie, si vous voulez. Des personnes qui ne prennent pas souvent la parole et pourtant qui ont beaucoup de choses à dire. C'est exactement le cas de Sabrina qui mêle humour et aisance oratoire pour notre plus grand bonheur auditif. Ensuite, j'ai voulu donner la parole à Sabrina pour son engagement associatif, son engagement sociétal. Un sujet dont j'ai encore trop peu parlé, je dois dire, sur Le Gratin. J'aime beaucoup la vision de Sabrina de créer des ponts entre le monde de l'entreprise et celui du monde du non lucratif, afin d'en démultiplier l'impact. Écoutez bien l'épisode jusqu'à la fin parce que Sabrina nous parle avec beaucoup de ferveur de ses engagements pour les associations Tous à l'école, la Fondation des femmes ou encore la Maison des femmes de Saint-Denis. Une ferveur qui se traduit en action puisque Sabrina ne se contente pas d'en parler, mais agit pour ses causes. Une belle leçon et une image d'une femme loin des caricatures par laquelle Sabrina nous montre qu'il est possible d'allier ambition et responsabilité. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Sabrina Erlori. Bonjour Sabrina, bienvenue sur Le Gratin.
Bonjour Pauline.
Je suis ravie de t'accueillir.
Moi aussi, ravie.
Écoute, ça fait déjà très longtemps qu'on parle, mais j'ai hâte de creuser en profondeur plein de sujets et j'ai réfléchi en préparant cette interview. Je me suis dit que le meilleur moyen de commencer, c'était de parler de ton enfance, figure-toi, parce que j'ai lu pas mal de choses dessus et j'ai eu l'impression que notamment tes parents avaient eu un impact énorme sur toi, enfin, ce qui est le cas pour tout le monde, tu vas me dire.
Oui, j'allais te dire. Voilà. Me permettre cette
mais
petite
notamment,
blague.
En fait, un point qui m'a intéressée parce que j'ai lu ça et je ne sais pas si c'est vrai, avait eu un impact énorme sur ta confiance en toi. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé?
Alors, c'est peut-être vraiment beaucoup de post-rationalisation, hein, mais j'ai la chance d'avoir des parents, moi, que je trouve évidemment super intelligents et super aimants. Et j'ai une maman qui a passé beaucoup de temps avec moi et mon frère et qui, je crois, a réussi à vraiment muscler la confiance qu'on a développée en nous. Elle nous a toujours dit que tout était possible. Elle nous a toujours regardé avec des yeux exigeants. Hein. Attention, l'idée, c'était pas de nous passer à peu près tout et n'importe quoi. Au contraire, hein, mais en nous disant qu'elle nous soutiendrait dans à peu près toute initiative exigeante. Et je crois que à plusieurs reprises, maman m'a vraiment montré que si je voulais quelque chose et si je me donnais les moyens d'y arriver, c'était possible. Voilà. J'ai un exemple en tête, tu vois, qui est. Quand j'ai décidé de faire une classe préparatoire, on savait pas exactement comment, quelque part, on financerait l'école en question. Et c'était pas grave, en fait. Ça, c'était en deuxième temps, en fait. On trouverait après.
C'est vrai qu'on allait trouver une solution.
Voilà, on trouverait une solution parce que ce qui comptait, c'était surtout de pas limiter mon potentiel et les envies que je pouvais avoir. Et je trouve que c'est assez remarquable, en fait.
Pas de limite.
Non, pas de limite. Enfin,
j'adore
si,
cette idée.
Quand même, des limites éducationnelles, oui, voilà, de respect, de valeurs, etc. Mais non, pas de limite
règles,
dans l'ambition.
Pas de, voilà, c'est ça,
pas de limite dans l'ambition. Et je trouve que quand en plus on est une fille, c'est extraordinaire d'avoir une maman qui vous dit pas de limite dans l'ambition.
J'adore cette idée. Est-ce que tu te rappelles ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Tu avais une vocation, justement, une carrière dont tu avais?
Parce que, eu égard à la conversation qu'on vient d'avoir, à toi et moi en off, moi je voulais être prof.
Ah, c'est drôle, ouais. Mais prof de quoi?
Je voulais être prof. Alors, j'ai eu différentes périodes, hein, en fonction des profs dont je tombais amoureuse.
Ouais. évidemment.
Très souvent des femmes, pour le coup, mais que je trouvais incroyable. J'ai voulu être prof beaucoup longtemps d'histoire géo ou de français. Et puis, la vie a fait que je me suis retrouvée dans un espèce de système, finalement. Tu sais, c'est assez marrant, mais en fait, quand on est gamin, en fait, on épouse quand même les systèmes dans lesquels on évolue. Et il s'est retrouvé que moi, à partir de la seconde, je me suis retrouvée dans un lycée où tout le monde voulait faire et était préparé pour faire une classe préparatoire. Moi, je venais absolument pas de ce monde-là. C'était un monde que je découvrais. J'ai découvert le mot classe préparatoire à l'âge de 15 ans, donc c'est quand même assez drôle. Mais pour le coup, je me suis retrouvée dans un monde où tout le monde préparait une classe préparatoire. Donc, je me suis dit, bah, je ferai une classe préparatoire. Et puis, en fait, ce qui est assez drôle, sans point de chute, sans savoir exactement ce que je voulais faire professionnellement derrière, tout à fait. Mais voilà, à ce moment-là, ça m'allait bien parce que c'était apprendre, c'était. Et puis, moi, j'étais très curieuse. Je pense que pendant longtemps, j'ai différé en fait le choix entre mes matières. Et en cela, la classe préparatoire, c'est assez génial. Donc voilà. Après, la vie a fait que j'ai changé mon fusil d'épaule. Et puis après, il y a eu aussi toute la dimension de l'autonomie financière qui était très importante parce que moi j'ai toujours voulu me débrouiller toute seule et assez rapidement gagner bien ma vie pour pouvoir voilà voyager et faire toutes les choses que peut-être j'avais pas faites avant donc je me suis dirigée vers d'autres voies qui étaient aussi plus rémunératrices, mais je ne dis pas qu'un jour je ne retournerai pas à l'enseignement. Et la petite chose drôle, hein, et je crois que ça aussi c'est finalement quelque chose de fort moi dans ma façon d'être et aujourd'hui même de travailler en tant que, je sais pas comment on appelle ça, manager, c'est la transmission. J'ai commencé ma vie professionnelle, enfin avant même ma vie professionnelle, quand j'étais étudiante, pour financer mes études, je donnais des cours de philo parce que j'avais eu une excellente note, j'étais parmi les majors à HEC en philo. Et donc, j'ai passé 3 à 4 ans à donner véritablement des dizaines d'heures de cours de philo par semaine, à faire intégrer plein d'élèves dans des écoles. Et donc, je me suis dit que j'avais un truc avec la transmission qui fonctionnait bien. Et j'espère l'avoir conservé derrière dans le monde professionnel. Donc, bah, un jour, je me dis que j'y retournerai.
J'allais te dire, tu sais, tu disais de manière peut-être un peu dévalorisante, je suis manager, on peut appeler ça comme ça. Mais au final, est-ce que philosophiquement, on peut pas se dire qu'être manager et faire grandir des équipes, coacher ces équipes, c'est pas d'une certaine manière un enseignement pour le monde professionnel, tu vois?
Ah si, mais moi, enfin, tu sais, je pense que sinon les choses n'ont pas de sens en fait. Soyons clairs, moi je considère pas qu'il y a, tu vois, un management transactionnel fonctionnel. Et c'est d'ailleurs un gros sujet depuis longtemps chez moi. J'ai beaucoup de problèmes avec la posture managériale. Tu sais, on te dit il y a une posture managériale, ce qui veut dire que bon, en gros, il y a toi dans la vraie vie et toi au travail. Moi, je pars du principe qu'il faut être hyper aligné dans la vie de tout court. Et donc, quand effectivement, on est passionné, investi, de donner le mieux qu'on peut aux autres et de hisser les autres vers le haut, encore une fois, hein, du mieux qu'on peut, avec ce qu'on a à offrir soi-même, hein, qui parfois arrive aussi à sa limite. Hein, donc, c'est pas, voilà. Il faut se renouveler aussi dans la vie et se stretcher soi-même. Je crois que oui, c'est ça la vraie notion du. Alors c'est peut-être plus le leadership que le management en vérité, si on veut être très clair, inspirer et pousser les gens vers l'excellence. Et puis aussi tu sais, parfois même les convaincre de ce qui est bien malgré eux. Moi j'ai eu beaucoup ça aussi sur mon parcours. J'ai rencontré beaucoup de gens qui, sans qu'on leur tende la main, ne se seraient peut-être pas sentis capables de se lancer. Ça, je crois que c'est aussi l'autre élément qui est hyper important, que moi, j'ai reçu et que j'essaie aussi systématiquement de transmettre.
J'adore cette idée. Et justement, je voulais parler de leadership et de management avec toi parce que je sais que c'est des sujets qui te tiennent à cœur. Et du coup, une question que je voulais te poser par rapport à ce que tu disais à l'instant, c'est finalement cette idée de leadership ou de management, peu importe à la rigueur quels sont les mots qui sont les plus propices, mais quelle est la tienne? Est-ce que tu as des principes, une vision, peut-être cet alignement dont tu parlais entre vie personnelle, entre les principes qu'on peut avoir dans la vie personnelle, je veux dire, et la vie professionnelle? Mais je sais pas si tu y as réfléchi, c'est peut-être un peu conceptuel, mais je trouve ça intéressant de se dire, en fait, tu es un leader, tu as un rôle de leader, tu veux emmener des équipes avec toi, tu veux leur faire faire des choses extraordinaires. Comment est-ce que tu vas y arriver? Quels sont tes principes à toi, Sabrina?
Il y en a plusieurs, mais le premier, tu sais, moi je suis quelqu'un, et je l'ai souvent dit à chaque fois qu'on me pose ce type de questions, je réponds un peu toujours la même chose. Je suis désolée, du coup, Pauline, ça va pas être très nouveau. Mais
parfois,
moi,
tu sais, c'est bien.
Mais c'est bien de répéter, voilà, exactement, la force du repeat, comme on dit. Moi, je crois qu'il faut, dans la vie toujours, à peu près, pour comme pour tout, il faut un très fort alignement entre justement l'intellectuel et l'émotionnel. Je pense qu'il faut énoncer très clairement une stratégie et faire adhérer les gens à une stratégie, à un projet, voilà, à des éléments qui sont formalisés.
Je me permets de t'interrompre, Sabrina. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire précisément par aligner l'émotionnel et l'intellectuel?
J'y arrive. C'est-à-dire que je pense qu'il y a toute la dimension de l'intelligence. C'est-à-dire qu'effectivement, voilà, il y a un plan, il y a un point A, un point B, et voilà les différentes choses qu'on va mettre en place pour y arriver. Mais en fait, si les gens n'adhèrent pas par leur cœur à la façon d'y arriver, les valeurs qu'on va mettre derrière et le pourquoi, en fait, on veut aller dans cette direction qui, très souvent et de plus en plus d'ailleurs, je pense, ne peuvent pas être mues que par des KPI transactionnels, business, etc., mais aussi par une volonté collective de faire les choses mieux, chacun à notre niveau et encore une fois, très modestement, dans nos univers avec ce qu'on a apporté à nos univers et à nos métiers, eh bien, je pense que c'est plus difficile. Donc, je dirais toujours la même chose, cette espèce d'alignement entre énoncer clairement une stratégie, il faut que les gens comprennent toujours très clairement ce qu'on veut faire et surtout le pourquoi on veut le faire et comment on va y aller ensemble. Je crois que le comment, il est aussi important que le pourquoi et le où. Et ça, c'est pas forcément des choses qu'on nous apprend en fait dans nos études. C'est parfois même ce qu'il y a de plus difficile parce qu'en fait, il faut aller le chercher en soi. Ça t'oblige toi en tant qu'individu, et c'est pour ça que je parle d'alignement, à aller chercher dans ce qu'il y a de profondément humain en toi, dans tes doutes, dans tes interrogations, dans tes limitations aussi, parce que t'as pas toujours la réponse. Mais en fait, je pense qu'aussi se présenter de façon justement assez authentique et vulnérable aussi aux gens, parce que c'est vrai que tu sais pas nécessairement comment vont se mettre en place tous les jalons. C'est ce qui fait qu'il y a de l'adhésion, parce que finalement, les gens se disent « Ok, elle est vraie.
Oui, » Elle est humaine.
Elle est humaine, elle est vraie. Et en fait, je crois que les gens ont aussi besoin énormément de savoir que tu ne vas pas les lâcher en race campagne, que tu les soutiendras le plus longtemps possible jusqu'au bout du mieux que tu pourras. Ça crée un collectif fort. Voilà, je te répondrai ça. L'alignement entre une stratégie qui s'énonce clairement, donc l'intelligence, ce qu'on peut appeler l'intelligence, et évidemment le lien fort émotionnel de confiance et de solidarité que tu vas créer avec tes équipes.
J'adore cette idée de dire, tu sais, il y a un terme en anglais, « I have your back ».
Exactement.
C'est ça, quoi,
tout en fait. Tout à fait. Tout à fait. En fait, mais même les potentiels, en fait. Les gens, tu les développes parce que ils se disent, je vais sortir de ma zone. Alors après, il y a les dingos entrepreneurs dont vous faites partie, qui ont hyper confiance en eux, quoi qu'il arrive, contre vents et marées. Non, mais je te taquine. Mais et voilà, il y a des gens qui, au contraire, plus il y a d'adversité, moins on croit en eux et plus ils rebondissent. Et c'est génial et heureusement que ça existe. Bon, parfois ça peut créer des profils un petit peu sans limite, mais ça c'est un autre sujet. Mais il y a beaucoup de gens qui ont besoin de qu'on leur tende la main et qu'on les soutienne dans des environnements qui évidemment restent instables, mais quand même sont baqués. Et en fait, moi, je pense qu'un manager, un leader, on va l'appeler, je sais pas comment, mais voilà, un de ces deux termes-là, un encadrant stimulant, c'est beaucoup, beaucoup ça. C'est aussi créer les conditions de la réussite en créant un environnement propice à la prise de risque, tout simplement.
Complètement d'accord avec toi. C'est drôle parce que j'ai maintenant exactement ces convictions, mais je peux te garantir que moi, quand j'ai commencé à être leader ou manager, j'étais à milieu d'avoir compris tout ça. Heureusement, j'espère avoir un petit peu progressé. Je voulais savoir si toi aussi, t'avais appris des choses sur toi-même, des enseignements sur le leadership, le management, appelons ça des deux manières, que tu pourrais nous partager parce que toi-même, t'avais commis des erreurs. Parce qu'aujourd'hui, je te vois, on en parlait un petit peu en rigolant juste avant, fait que t'as une quinzaine d'années maintenant d'expérience professionnelle, donc t'es quand même à un certain aboutissement. Tu vas encore évidemment grandir, mais je veux dire, t'as appris beaucoup de choses sur le chemin. Je peux imaginer que la route n'était pas si simple et que t'as dû aussi commettre des erreurs.
Mais j'en commets tous les jours. Des erreurs. La première chose, j'ai eu la chance, et ça, il faut le dire, et je souhaite cette chance à un maximum de gens. J'ai eu la chance d'avoir des gens sur mon parcours, tout au long de mon parcours, qui m'ont quand même aidé, façonné, conseillé. Ça a été plutôt des hommes, en l'occurrence, ça a été des patrons masculins, mais à qui je rends hommage, parce que ils ont su, à chaque fois, en fait, trouver le bon équilibre entre comprendre qu'il fallait... Il fallait pas étouffer cette espèce de... Moi, je suis quelqu'un de très passionné, de très énergique, de très dans l'action et qui veut du résultat. Il fallait pas étouffer ça. Et en même temps, il fallait évidemment canaliser cette espèce d'énergie, cette espèce d'appétit. Voilà. Donc en fait, si tu veux, je pense que j'ai eu des patrons qui étaient pas du tout scolaires, hein, qui croyaient en mon potentiel, hein, qui m'ont tendu la main et qui ont réussi à créer un bon équilibre, un juste équilibre, hein, pas simple, hein, entre la fougue, la passion, l'envie. Et puis j'ai un côté aussi assez contrariane, moi, si tu veux, quand on me dit que c'est pas possible ou quand on me dit que ça a été fait 20 fois, c'est au contraire, ça m'excite encore plus, si tu veux. Donc c'est voilà. Et qui en même temps on réussit quand même à me, je dirais pas normer parce que j'aime pas ce terme, mais à quand même me rendre plus praticable. Donc je rends hommage aux rencontres et aux gens qui ont pris le temps du feedback. Moi, je dis toujours que j'ai commis plein d'erreurs aussi parce que justement, si tu veux, j'ai toujours cette espèce de dichotomie sur la posture managériale. Je crois que, et particulièrement dans des mondes très compliqués comme ceux dans lesquels on évolue, je crois qu'il est nécessaire d'être très aligné entre ses valeurs, sa vision et son opérationnalité professionnelle. Et donc, si tu veux, je pense que ça fait des individualités très fortes dans le monde professionnel. Mais en même temps, forcément, quand on est très aligné et que parfois on est comme on est dans la vraie vie, ça peut évidemment créer quelques effets de bord. Tu vois, moi, je suis assez spontanée, parfois sans filtre, très, très, très passionnée.
Et donc, parfois, ça peut aussi...
Et hypersensible aussi. Donc, voilà, c'est des choses qui peuvent être d'une grande force et qui, en même temps, parfois, sont pas que simples dans le monde professionnel. Donc, je dirais que j'ai appris à... En fait, je pense, Pauline, qu'avec les années, ce que tu apprends surtout, c'est qui tu es toi, ce que tu as vraiment au fond de toi, ce dont tu as vraiment envie et jusqu'où tu es capable de faire des concessions ou pas. Voilà, si je suis très honnête. Et je pense que ton management, en vérité, il faut apprendre à te connaître toi vraiment profondément pour ensuite devenir le manager que tu dois devenir, si ça fait du sens. En fait, c'est pas les autres. Les autres te tendent la main, les autres te font des feedbacks. Mais c'est un véritable travail de longue haleine d'introspection, de remise en question systématique. Et quand même de gens qui te tendent la main aussi, qui te donnent des opportunités, qui te permettent à chaque fois de tester, de sortir de ta zone de confort et de tester des choses nouvelles. Et voilà. Et c'est tout ça qui fait qu'un jour, tu deviens le manager que tu dois devenir. Mais je pense que, enfin, il y a pas d'école de management, il y a pas de règles de management. Et je pense qu'il y en aura de moins en moins. À la vue de ce monde quand même très, très changeant, mouvant, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de nécessité d'être au clair avec ses valeurs personnelles et la trace qu'on veut laisser. Voilà, je pense que c'est ça, le management pour moi.
Écoute, c'est une belle vision. C'est drôle, ça me fait penser à ce que l'un des invités du Gratin que j'ai eu la chance de recevoir aussi, c'était Xavier Mufragi. Je ne sais pas si tu le connais,
non.
C'est le CEO du Club Med. Enfin, il vient de changer de poste. Et qui me disait aussi qu'il avait vécu un peu ce cheminement. Et qui me disait que du coup, maintenant, il se connaissait assez bien. Et donc, la première chose qu'il faisait quand il arrivait dans une nouvelle équipe, c'était justement de dire précisément à ses collaborateurs...
Voilà comment je fonctionne.
Voilà comment je fonctionne. Quoi. Le mode d'emploi, Xavier, c'est ça. Et je trouve ça génial parce qu'en fait, on n'a pas le réflexe de le faire. Et effectivement, c'est exactement ce que tu dis. C'est d'être aligné et puis de le communiquer aussi pour finalement donner le code secret, quoi, on va dire,
oui,
à l'équipe.
Oui, non, mais je suis d'accord. Alors, moi, je pense ça partiellement, cependant. Je suis d'accord avec ce point, évidemment. Mais en parallèle, je fonctionne aussi comme ça aujourd'hui. Et je pense que j'aime beaucoup être surprise et j'ai aucun souci à ce qu'à la limite... Moi, j'ai pas de problème à travailler avec des gens qui fonctionnent pas du tout comme moi. Au contraire. J'ai autant besoin que les gens s'adaptent à moi que moi m'adapter aux gens. Et en fait, j'éprouve un énorme plaisir à m'adapter. Un, à des personnalités qui n'ont rien à voir avec moi, et deux, justement, même à des publics. Enfin, tu vois, de plus en plus, on travaille avec des gens extrêmement jeunes dans nos équipes. On n'a vraiment pas le même logiciel. Enfin, vraiment, moi qui commence à être assez âgée, Pauline, nous en parlions.
C'est pas
possible. Non, mais je te taquine, mais on n'a vraiment plus du tout le même logiciel. Mais qu'est-ce qui m'apporte, hein? Et qu'est-ce que je leur suis reconnaissante? Donc, je ne sais pas si c'est... Voilà, j'amènerai un léger bémol à ce point qui est que, effectivement, je me connais, mais je sais que j'ai aussi énormément besoin d'être surprise, d'être bluffée, et que du coup, je laisse vraiment la place... J'essaie de créer justement l'espace possible à la surprise.
Je comprends.
S'il n'y a que ton mode de fonctionnement et que tu peux fonctionner qu'avec des gens qui fonctionnent comme toi, en vérité, je pense que tu limites cette possibilité-là. Moi, j'aime juste... Enfin, voilà, moi, tu me présentes des gens intelligents qui ont des idées. Quel bonheur, quoi. Et c'est ça qui est génial dans nos métiers, tu vois, c'est qu'on est quand même exposé à un nombre de gens juste dingue,
ouais, hyper varié.
De toute génération, donc j'adore.
Si on peut revenir sur un point que tu as évoqué, tu disais « j'étais un peu contrarienne ». Alors, je ne sais pas exactement quelle est la traduction française, mais on va dire que tu aimes bien, on va dire, ouais, aller non pas dans le sens du vent, mais un peu…
J'ai un problème avec les comportements moutonniers, ouais.
Voilà. Mm. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant que tu me le dises, parce que je sens que c'est assez vrai et que tu as une personnalité, tu as un vrai caractère. Mm-hmm. Et à la fois, c'est une vraie force, notamment au niveau du leadership, mais je peux imaginer que de temps en temps, ça peut te jouer des tours aussi.
Tout à fait.
Notamment parce que on a une, dans notre équipe, chez Gémio, quelqu'un qui est assez contrariane, souvent c'est des gens très intelligents d'ailleurs, et qui du coup, un peu par principe, si tu veux, aime bien avoir la posture en opposition avec, on va dire, le comportement moutonnier ou avec ce que les autres pensent. Et c'est pas facile tous les jours à gérer, parce qu'il faut convaincre cette personne. Est-ce que toi, c'est quelque chose sur lequel tu travailles? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui sont dans ce cas de figure, qui sont eux-mêmes des contrariennes, qui voient ça comme une force, mais qui se disent, de temps en temps, ça serait pas mal que j'arrive à m'auto-réguler. Est-ce que tu le fais, toi, cette auto-régulation, ou au contraire, est-ce que tu cultives ce côté contrarienne?
J'apporterai plusieurs nuances. L'idée n'est pas d'être contrariane pour être contrariane. Moi, je ne prends pas systématiquement, juste par réflexe, le contre-pied de tout. Au contraire, et je suis ravie de dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de thèses et de choses avec lesquelles j'adhère totalement sans problème. Je dis juste que quand il y a quelque chose que je ne trouve pas complètement clair, logique, ou en tout cas que je ne comprends pas, si tu veux, j'ai jamais eu le... C'est très marrant, moi, je rencontre un nombre de gens pas possibles qui me disent « Écoute, je n'ai pas très, très bien compris » ou « Je ne suis pas complètement d'accord, mais bon, tout le monde a l'air tellement ok et ça a l'air tellement intelligent que je me dis que c'est moi qui ai un problème et qui n'ai pas compris. Moi, je me suis toujours dit que j'avais une intelligence assez normale et que si je ne comprenais pas ou s'il y avait un loup, c'est qu'en fait, le loup n'était pas chez moi, il était chez les gens qui l'exposaient, tu vois. Donc déjà, bon, ça c'est une posture par rapport au monde, je trouve qu'il faut quand même donner à la majorité de gens. Enfin, c'est pas parce que vous ne comprenez pas quelque chose que vous êtes stupide, c'est que parfois, vraiment... juste des choses qui font pas de sens ou qui sont mal expliquées ou qui parfois ne font pas de sens. Donc voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que il y a des espèces de, enfin ça on le voit, tu le vois, on le voit tous, c'est des espèces de modes. Il y a des moments où on va dire voilà, la thèse du marché ou la thèse de l'époque, c'est ça et il y a rien contre ça et tout le monde va y aller de voilà, et si tu vas contre le vent, effectivement, c'est pas simple. Donc, je pense que moi, ma conviction aujourd'hui et la façon dont je fonctionne, parce que je suis quand même on est dans des écosystèmes où tu ne peux pas fonctionner en étant que contrariane. Donc évidemment, il y a la feuille de route. Et cette feuille de route, les gens sont alignés sur les feuilles de route. Donc si tu décides de les développer, c'est que tu y adhères, évidemment. Maintenant, au sein, sur le modus operandi et sur les possibilité de peut-être l'étendre ou tester d'autres choses, je crois que c'est là où il faut garder aussi sa liberté de penser et sa liberté surtout de proposition. Encore une fois, pas pour la beauté du genre et la beauté du style, hein, mais avec des choses concrètes que tu amènes, hein, qui peuvent être voilà sous forme de proof of concept ou choses comme ça, pour, je dirais, tendre... oui, mettre un petit peu sous pression les modèles qui te sont un peu poussés, qui ont des vertus et qui ont une vraie forme de vérité et qui parfois sont incomplets ou pas complètement pertinents par rapport... Voilà, c'est plus ça. Donc, si tu veux... et puis, parfois même convaincre sur des théories tout autres sur lesquelles on peut te laisser la chance d'expérimenter. Donc, je dirais quand même que tu peux pas fonctionner contre dans la vie, que contre. Il faut fonctionner avec, et je crois avec un aménagement de l'avec, qui là, pour le coup, est très libre d'interprétation, en fonction de l'énergie et de la créativité que tu veux y apporter. Ce serait plus ça, ma réponse. Est-ce que c'est clair?
C'est très clair, et je retiens vraiment un point important, je pense, parce que j'ai aussi constaté ça, et je pense, je le vois bien sur mes réseaux sociaux, etc., beaucoup de personnes qui n'osent pas dire « je n'ai pas compris ».
Ah, mais bien sûr, et tu remarqueras que c'est aussi, il y a pas mal de féminin, hein, en vérité, hein. Mais non, enfin vraiment, croyez-moi, quand les choses sont claires, on les comprend.
Tu m'as fait une belle transition, Sabrina, parce que je sais que, alors pas le féminisme, mais en tout cas la confiance en soi chez les femmes est un sujet qui t'importe beaucoup. Et toi-même, bah, du coup, en fait, t'as tu avais cette confiance en soi, on a commencé par là et c'était justement le but de ma première question, mais tu l'as aussi cultivée, si je me trompe pas, parce que tu as vécu plein de choses qui ne devaient pas être si simples. Et je suis tombée sur une partie de ta carrière où, si je me trompe pas, au tout début, quand tu t'es lancée, tu as fait le choix de partir à l'étranger, si je ne me trompe pas, en Amérique latine.
Non, alors en fait, j'étais basée à Paris, mais je faisais des tournées de 3, 4, 5 semaines, toutes les 5 semaines en Amérique latine.
C'était à l'époque que tu travaillais chez L'Occitane,
non,
c'est ça?
Pas du tout, c'était avant L'Occitane. En fait, quand je suis sortie de mes études, j'ai rencontré un entrepreneur qui avait une PME qui développait, commercialisait des licences de parfums dans le monde entier. Et son premier marché mondial, c'était l'Amérique latine. Il était numéro un en mass market au Brésil, par exemple, sur le segment du parfum. Et j'en avais évidemment jamais entendu parler. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et je pense que le plus loin dans ma vie où j'étais partie, c'était probablement Chypre quand j'avais 8 ans. Donc, si tu veux, l'Amérique latine. Mais bon, et à la fois, c'était dingue parce que
ouais,
moi, j'avais
une aventure.
Moi, je rêvais d'aller en Argentine, au Chili, au Brésil. Voilà. Donc, j'ai rencontré ce type qui a vu débarquer une gamine, mais vraiment une gamine qui sortait de l'école, qui savait rien faire et puis qui parlait espagnol mais alors comme à l'école quoi. Et ce mec, enfin vraiment je lui rends hommage, il s'appelle Jean-Pierre, s'est dit cette gamine elle a la niaque, j'ai envie, je prends un pari fort et je lui donne ma plus grosse zone commerciale qui faisait, alors c'était des petits chiffres mais c'était 20 millions d'euros pour sa boîte, c'était gigantesque. Et il m'a donné l'opportunité de faire ça et donc j'ai fait ça pendant 3 ans.
Et donc tu devais faire le développement commercial,
ouais,
de sa marque de cosmétiques.
Exactement, en Amérique latine.
C'est incroyable.
Et donc, j'allais en Colombie, au Venezuela.
Comme première opportunité professionnelle,
mais dingue,
c'est dingue.
Mais
dingue. C'est
dingue. Et surtout, en plus, les publics que tu découvres sur place. Parce qu'en fait, moi, je bossais avec les types qui avaient créé les boîtes d'import-export et qui étaient les leaders sur leur marché domestique. Tu vois, en l'occurrence, c'était des types qui distribuaient des L'Oréal, Chanel, etc. Donc, moi, c'était les gens avec qui je négociais. Donc, t'as 23 ans, tu parles, c'est déjà pas ta langue. Tu te retrouves à l'autre bout du monde, vraiment lost in translation. Hein, puis, dans des pays, enfin, tu vois, au début, quand tu dis à tes parents, bon, alors là, je pars en Colombie 10 jours, ta mère, elle te regarde genre, t'es sûre, chérie, que ça va se passer comme ça?
Ouais.
Mais oui. Et puis, à négocier avec, plutôt, en l'occurrence, dans un monde très... J'insiste sur le genre, en l'occurrence, parce que ça a un sens dans cette histoire. Moi, je ne suis pas pour le genre, enfin, toi, pour toujours genrer les choses.
Bien sûr.
Mais là, dans cette histoire-là, ça a un sens particulier, avec des hommes assez machos en Amérique latine, qui voient débarquer une petite Française.
Et puis, jeune aussi, parce que...
Super jeune.
Tu vois, c'est pas qu'une histoire de genre,
mais
c'est aussi
sûr,
que tu avais quoi, 20,
hyper jeune,
22,
inexpérimenté,
ans.
Et qui au début vraiment, je pense, se disent bon, on va rigoler. Et puis on s'est tous amadoués, on a fait du super business ensemble, ils m'ont beaucoup appris. Et on a gardé des liens pour certains assez indéfectibles. J'en ai aussi gardé des liens parce que j'ai été bien malade. Je fais deux rapatriements sanitaires, donc ça crée des liens, ça aussi. Quand on dit sortir de sa zone de confort, c'est au propre comme au figuré.
Mais du coup, en fait, t'es un peu jetée dans l'arène.
Ouais, je suis jetée dans l'arène.
Complètement.
J'ai toujours été jetée dans l'arène.
Et alors, quels sont les conseils que tu peux donner à quelqu'un qui se retrouvait dans une situation comme ça? On remet en contexte, c'est ton premier job, t'as 22-23 ans, t'es une femme, ok? Et tu débarques dans un univers que tu ne connais pas, où tu ne parles pas la langue, et t'es censée vendre à des gars qui sont en plus, j'imagine, assez installés.
Ouais. Et puis qui au début vraiment, n'y croit pas quoi.
Ouais,
enfin, ils rigolent.
C'est
doucement.
Ça, faut un peu.
Et
ben,
je pense que, en fait, il faut arriver à manier deux concepts très éloignés qui sont la gravité et la légèreté.
La gravité et la légèreté.
Non, mais
alors,
il faut être extrêmement au point sur ces dossiers,
ouais.
Très très robuste,
donc très solide
très
au niveau
solide,
professionnel,
et en même temps avoir un humour tout terrain. Parce que ce que tu te prends dans la tronche, si tu te froisses, tu tiens 15 minutes en fait. Donc, il faut avoir une autodérision gigantesque, un sens de l'humour remarquable et connaître ses dossiers sur le bout des ongles. Et quand tu arrives à faire cette espèce de jointure, là, tu es redoutable. Et donc, tu t'amuses beaucoup.
Et au final, ce qui est formidable, c'est que tu gagnes, si je puis dire.
Tu
alors,
gagnes,
c'est pas...
je sais pas si tu gagnes, mais en tout
non,
cas, tu es respecté,
je...
les gens t'apprécient et tu fais du super business. Et
t'arrives à tes fins.
Ouais, t'arrives à tes fins, ouais.
T'as du résultat.
Ouais, t'as du résultat. Ouais. Et puis tu crées des amitiés aussi. Enfin, tu sais, les gens au final, quand ils te respectent professionnellement et qu'en même temps ils passent un bon moment avec toi, parce que tout ça, ça fait partie. Enfin, surtout dans les métiers commerciaux, le charme ça compte. Enfin, la séduction ça compte. Évidemment, c'est très important dans le commerce. C'est une des clés de la réussite du commerce. C'est pas à toi que je vais dire ça. Donc, quand t'arrives à faire ça, ouais, t'y fais partie des gens qui ont envie de développer l'activité.
Est-ce que cette expérience, qui devait quand même être folle, t'as appris quelque chose sur toi-même que tu pourrais nous partager? Est-ce que c'est peut-être difficile comme question parce qu'il faut prendre beaucoup de recul, mais est-ce que tu pourrais essayer d'y réfléchir et
pour être très honnête, Pauline, je vais te répondre à un truc hyper basique, mais du coup, ça valide le fait que, en fait, t'es tout terrain. Non mais, enfin, quand tu débarques de nowhere, que tu deals en Colombie, au Venezuela, enfin, si tu veux, bon, c'était pas exactement sur la feuille de route. Après, oh là là, toute aventure à côté, finalement, c'est pas grand-chose.
T'as plus peur, quoi.
Bah non, t'as plus peur de rien, tu peux tout faire.
Et alors là, je vais te poser une question très indiscrète. Mm-hmm. Mais maintenant que t'es arrivé là où t'es, DG de Mac, avec, j'imagine, quand même un peu plus de confort malgré tout, est-ce que tu peux avoir peur de devoir redevenir tout terrain?
Non, mais en fait, t'es toujours tout terrain. Tu sais, déjà, pour moi, il y a deux éléments. Premier élément, c'est que, donc ensuite, après cette expérience en Amérique latine, j'ai rejoint une boîte que j'aime et que j'ai aimée d'amour, qui s'appelle L'Occitane, dans laquelle j'ai passé 10 ans. Et chez L'Occitane, j'ai appris le retail. Déjà, c'est un point très structurant par rapport à qui je suis. Le retail, c'est un métier où tu restes tout terrain tout le temps. Parce que le retail, c'est un métier de grande humilité. En fait, les gens ne tu vois, c'est pas comme être né en marketing en chambre, en fait. Quand tu fais du retail, tu sers les gens dans la vraie vie. Et tous les jours, tu redémarres à zéro. Moi, j'avais des patrons qui disaient qu'une des très grandes qualités pour réussir dans le retail, c'est qu'il faut être totalement parano. Parce qu'en fait, il faut toujours croire que tu vas mourir pour être le meilleur. Parce que tous les jours, tu redémarres à zéro et tu te compares à l'année d'avant et il faut faire mieux. Et en fait, pour faire mieux tout le temps, en fait, tu t'arrêtes jamais, t'es jamais en paix dans le retail. Parce que tous les jours, tu sais, tu capitalises pas vraiment sur les gens. Enfin, si, parce que t'as tes fichiers clients, etc. Mais quand même, cette espèce de... Parce que dans le retail, il y a quand même, comment on appelle ça, ce spectacle vivant qui fait qu'il faut que toi, en tant qu'individu, tu sois au top tout le temps et que tu te remettes en question tout le temps. Donc, le tout-terrain, quand tu viens du retail, en fait, c'est une seconde nature. Jamais tu es justement dans une position de confort. Et le deuxième élément, Pauline, c'est qu'on est dans des mondes aujourd'hui où nos écosystèmes font que le confort, c'est pas du tout une option.
Pas à l'ordre du jour.
Mais c'est pas à l'ordre du jour et c'est pas à l'ordre du jour pour très 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 longtemps. Donc non, je parlerai pas de la peur de retourner au tout terrain. Je pense que moi j'ai ça en moi. J'ai cette espèce de déjà je pense de nature, de mon parcours personnel fait que, et trois avec cette dimension et de retail et de grands mouvements systémiques. Je pense que au contraire, moi j'ai l'impression d'être vraiment un équilibriste systématique qui essaie de réorganiser tout le temps, avec les nouveaux éléments qu'il a entre ses mains, un monde cohérent. Voilà.
Pour parler de retail, justement, je sais que c'est aussi très important, évidemment, pour Mac où tu travailles aujourd'hui, sans rentrer forcément dans les, on va dire, problèmes actuels, dans la situation actuelle qui, bien évidemment, est compliquée pour tout le monde. Mais cette dimension retail, elle est fondamentale. Même si la période actuelle fait que le retail marche moins bien, le retail va quand même reprendre, c'est sûr, dans quelques années. Et donc, je voulais avoir, si je peux, la substantifique moelle de ce que tu considères d'important dans le retail, pour le dire très simplement. C'est-à-dire que tu m'as dit là, en deux phrases, des choses déjà passionnantes pour me dire qu'il faut se réinventer tout le temps, pour me dire que tous les jours, en fait, on redémarre à zéro, etc. Et en fait, je ne sais pas exactement comment formuler cette question, mais moi-même, je suis une petite débutante dans le retail. Avec Gémio, on a 4 boutiques. Et en fait, je me rends compte que c'est un métier à part de ce que j'ai fait. Mmh. Et donc, en fait, très concrètement, ça m'intéresse de savoir si tu aurais des conseils à me donner à moi ou à n'importe qui décide de se lancer dans le retail, au niveau de l'humain peut-être,
mais
au niveau de l'état d'esprit surtout.
Je vais te dire des choses, je vais t'enfoncer des portes ouvertes, mais c'est pas parce que les concepts semblent simples qu'ils sont simples à exécuter.
Ouais.
Pour faire du retail bien, il faut aimer les gens. Alors, les gens qui vont entendre ça vont se dire, elle est gentille, bon, mignonne.
Les gens, les clients et
mignonne,
les commerçants.
Bien sûr, et tes collaborateurs. Ouais. En fait, si déjà de nature, c'est pas quelque chose dans lequel tu prends ton pied, la relation humaine, c'est compliqué de faire du retail. Hein, parce qu'en fait, le retail, c'est que des gens. C'est que de l'humain. C'est que de l'humain. Deuxièmement, si t'aimes pas servir et être à dispo tout le temps, pareil, il faut faire autre chose, en vérité. Et puis, je crois que pour aimer... Moi, j'avais un boss, hein, c'est toujours ce boss anglo-saxon que j'adore, je le cite souvent, mais c'est quand même, il m'a beaucoup, beaucoup musclé, formé, appris. Il disait, pour aimer le retail, il faut être soi-même un chopper, hein, un consommateur. Mais je crois que c'est vrai, il a raison. Mm. Bah, tu vois, si en vérité, ton truc, c'est le transactionnel pur et simple parce que tu t'achètes 5 jeans par an et 2 paires de baskets, bah, fais autre chose. Parce que par définition, la magie du commerce, t'en es très, très loin. Il faut aimer les concepts, les marques, les univers. Il faut être soi-même un consommateur. Alors, je ne suis pas là en train de faire l'apologie de la consommation débridée. Mais si tu n'es pas intrinsèquement passionné par les expériences, les produits, les univers, pareil, c'est pas un métier, je pense, simple.
Je comprends. C'est hyper intéressant. Tu parles d'humain et beaucoup de service. On en parle beaucoup, mais je trouve que finalement, ça reste souvent des mots et que le vrai service, au sens où tu vas répondre à un besoin, où tu vas apporter un résultat, c'est pas si facile que ça. Comme tu disais, finalement, tout est dans l'exécution. Est-ce que cette notion de service, comment peut-être, est-ce que toi, à un moment dans ta carrière, ça peut être chez L'Occitane, ça peut être là chez Mac, est-ce que t'as vraiment essayé d'accentuer pour faire en sorte que le service ne reste pas juste un mot, mais que ça devienne vraiment un résultat?
Moi, j'ai appris le service. J'ai compris vraiment ce qu'était le service et comment tu pouvais changer la vie des gens. Là, c'est le moment grave où tout le monde se dit
« Je suis tout
que va-t-il se passer ?» Et là, la chute est encore plus brutale dans le maquillage. Bam ! C'est fait ! Elle ose ! Non, mais quand tu prends
mais c'est
Mac...
Vrai.
Non, mais quand tu prends MAC Cosmétique, en fait, au début, tu te dis, bon, voilà, c'est une marque de make-up. Et puis, les gens se disent, bon, c'est du make-up, c'est sympa. Et en fait, moi, j'ai des équipes qui, tous les jours, par le regard qu'ils portent sur les gens, l'écoute qu'ils apportent aux gens, véritablement, je te promets, changent des femmes, leur point de vue, leur confiance en elles, leur capacité à avoir de l'audace. Et j'ai même, tu vois, pour illustrer ça, j'ai une anecdote qui, moi, m'a bouleversée et on me l'a racontée et ensuite je l'ai vécue parce qu'il se trouve que j'ai fait à plusieurs reprises, j'ai offert ce service à des femmes qui étaient, par exemple, sous chimio, malades, qui n'étaient pas du tout des dingues de make-up, qui n'étaient pas des femmes particulièrement sophistiquées en vérité, et qui, parce qu'elles étaient fatiguées, pas au mieux de leur forme, sous chimio, qu'elles avaient perdu leurs cils, leurs sourcils, leurs cheveux, se retrouvent chez MAC en leçon make-up, et sortent de là en disant « Je ne me suis jamais trouvée aussi jolie ». Et là, tu te dis « Tu sais quoi ? Eh ben, en fait... merde, je comprends pourquoi je fais ce job, en fait. Donc, il faut tous nos métiers. Et en fait, je raconte cette anecdote parce que, voilà, on peut se dire, bon, du maquillage, c'est sympa, ça sauve pas le monde. Ah, ça sauve pas le monde. Mais ça participe à quand même une des définitions, probablement, du retail et qui, je crois, fera que, effectivement, comme toi, je pense que le retail est insubmersible, en vérité. Alors, probablement pas de la même façon, de la forme dont on l'a connu par le passé, mais... les humains font du bien aux humains. Et en fait, je crois qu'une des clés du service, c'est comprendre comment, évidemment, tu résous des problèmes. Et résoudre des problèmes transactionnels, t'as pas complètement besoin d'humains. Même si, de plus en plus, tu veux quand même parler à des humains et de moins en moins à des machines. Mais bon. Mais par contre, vraiment régler des vrais problèmes d'humain à humain, dans tous nos métiers, c'est possible. Rendre les gens un peu plus éveillés, un peu plus instruits. Moi, je crois beaucoup, typiquement, aux marques qui rendent intelligents aussi. On pourra en parler, mais je crois que, pareil, des marques éducatives qui passent aussi par l'humain. Et je considère que moi, j'ai la chance d'évoluer aujourd'hui dans un monde où, en fait, on fait du bien, vraiment profondément aux femmes et aux hommes qu'on conseille, parce qu'on les muscle. On muscle leur acceptation d'eux, leur affirmation d'eux, leur confiance en eux, par le truquement du maquillage. Mais en fait, ça, c'est bien plus profond que ça. Ça leur permet de faire une forme de chemin introspectif grâce à nous. Et parce que j'ai des équipes qui sont principalement choisies, alors évidemment pour leur talent, leur technicité, mais leur profonde humanité. Ouais. Nous, dans nos critères de recrutement, l'empathie, c'est extrêmement important. Si tu n'aimes pas les autres et que tu n'as pas envie d'aider les autres, tu peux pas être un bon maquilleur.
Et ça, comment est-ce que vous faites pour l'identifier ? C'est tellement difficile.
Alors, je ne dis pas qu'on se plante. Enfin, qu'on
se plante
pas. Ah non,
mais bien sûr. Mais j'imagine que...
Mais tu mets les gens en situation et puis tu sais... en fait, très souvent, quand on rencontre et quand on recrute des gens, je crois qu'un des éléments hyper importants, c'est pas de leur demander leur parcours. Nous, on n'est pas très inquiets sur le parcours. À partir du moment où les gens ont un petit quelque chose pour le make-up, bon, en général, ils sont quand même bons et passionnés, sinon ils viennent pas chez nous. Mais ensuite, nous, on les forme. C'est pas un problème. C'est même dans la vie en général, pour les jobs, en fait, les gens, tu les formes. Ce qui est hyper important, c'est plus de... Moi, j'aime bien poser plutôt des questions assez personnelles, enfin personnelles, sans rentrer dans des choses trop intrusives. Mais la façon dont les gens voient le monde, ce qu'ils ont envie de laisser comme trace, quels sont leurs moteurs, quelles sont les choses qui véritablement comptent pour eux, jusqu'où ils seraient capables d'aller dans certaines situations, etc. Je trouve que ça, c'est beaucoup plus indicatif de est-ce qu'on a envie de faire un bout de chemin ensemble et est-ce qu'on est câblé de la même façon par rapport à la mission qui est la nôtre, versus est-ce que tu as fait telle école, est-ce que tu as eu telle note au bac, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Enfin, vraiment, je le pense profondément.
Mais je suis complètement d'accord avec toi. On parle beaucoup de retail, de services, de vente, hein, d'une certaine manière. Et tout ça me fait penser au mot terrain que tu as employé un petit peu plus tôt. Et je sens que tu es effectivement une femme qui a la capacité à la fois à monter très haut et à aller dans des concepts. Ça revient peut-être à ton futur de prof de philo.
Voilà, exactement. Merci, Pauline.
Mais aussi, j'espère que tu me donneras des cours plus tard. Mais aussi, tu arrives, et j'appelle ça souvent faire l'hélicoptère, à retourner à la surface. Et ça, dans le retail, on sait que c'est essentiel. Mais même dans la vie, je pense que c'est très important de réussir à faire ça. Est-ce que toi, tu t'imposes une règle pour justement... Maintenant, je te pose cette question parce que tu es DG. Et donc, en fait, tu peux perdre de vue le terrain. Quand t'es DG. Qu'est-ce que tu fais pour ne pas perdre de vue ce terrain?
Bon, déjà, je pense que il y a aussi des tempéraments. Hein. Quand toi-même, tu as eu la chance d'évoluer dans des mondes très différents et pour le coup, de venir de mondes très concrets pour le coup et pas très conceptuels, hein, déjà, t'es plus musclé. Hein, parce que t'as un goût pour ça. Il y a des choses qui te semblent assez naturelles. Et puis deuxièmement, le terrain, faut le pratiquer, quoi. Il n'y a pas d'autre chose. Alors là, c'est un petit peu mouvementé avec les fermetures, ouvertures, les problématiques de limitation, de déplacement, etc. Mais moi, je me promène beaucoup, ouais. Et puis surtout, en fait, je crois qu'il y a un autre élément qui est très important, qui n'est pas toujours simple à mettre en place dans les organisations, mais qui est majeur, c'est... en fait, de travailler de façon très horizontale avec les gens qui savent. Les gens qui savent, c'est les gens sur le terrain. C'est eux qui, tous les jours, sont au contact des consommateurs. Donc, si les personnes les plus importantes dans le dispositif et qui ont le savoir et qui ont très souvent les signaux faibles même, d'ailleurs, c'est ces personnes-là. Et il faut créer un système de communication avec toutes les équipes, justement, à terrain, qui fait que c'est suffisamment fluide et avec suffisamment de... d'horizontalité pour que les gens s'expriment et donnent vraiment les vraies infos.
N'aie pas peur de s'exprimer.
De s'exprimer pour que toi, tu puisses immédiatement, du mieux que tu peux, encore une fois, agir dessus et parfois même anticiper certains éléments. Alors, on met en place, tu sais, aujourd'hui, beaucoup d'outils, des NPS, etc., pour avoir des outils de satisfaction client, pour avoir aussi beaucoup de contenu. Hein. Donc, en fait, il y a ces deux éléments-là. Il y a soi-même s'astreindre à lire tous les verbatims pour être au plus près de la vérité, enfin d'une forme de vérité, attention, mais quand même, très très indicatif. Et ça, je pense que c'est majeur aujourd'hui dans nos écosystèmes. Et en parallèle de ça, garder le pouls sur ceux qui savent. Voilà. Moi je dis toujours que, tu vois, moi, je ne suis entourée que de gens qui sont beaucoup plus compétents que moi. Moi, mon travail, c'est un travail de chef d'orchestre, de priorisation et de force de conviction avec le top management pour nous laisser libres de mettre en musique nos projets, mais qui en vérité sont des projets vraiment portés par mes équipes, qui savent très très bien, pour le coup, ce qu'elles veulent et ce qui doit être fait.
Quand tu dis, c'est drôle, quand tu dis réussir à remonter en fait la substantifique moelle quoi du terrain et donc des sachants, des personnes qui savent, j'adore cette formulation, finalement on le sait souvent, mais le faire c'est assez compliqué. Est-ce que concrètement tu pourrais nous dire, tu disais lire des verbatims, etc., est-ce que tu as mis en place ou il existait déjà chez Mac justement des outils, peut-être que tu fais des fausses cuisses gros, enfin que tu vas toi-même pour comprendre en fait ce que disent, ce que ressentent, ce que vivent les consommateurs au travers de ce que disent tes sachants.
On a des points déjà qui sont quand même assez... on a des points hebdo avec tous nos responsables régionaux. En fait, si tu veux, il y a tout un process qui est mis en place qui permet la remontée d'informations. En fait, c'est pas tant le process de remontée d'informations, je crois, qui est important. C'est l'aspect culturel et psychologique.
Ouais.
Les outils, il y en a 50. Enfin, je veux dire, on peut les énumérer, mais t'en trouveras très bien de
partout. Non, mais justement, ce qui m'intéresse,
c'est
plus...
Et les sessions mises en place de remontée terrain, elles existent dans les organisations. Plutôt, enfin, quand les gens sont dans des mindset retail, c'est en place. En fait, le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est, est-ce que les équipes vont être capables, enfin, avoir le confort psychologique et se sentir valorisées à... Et puis avoir la confiance dans le fait que si elles le font, derrière, il y aura enfin, que ce sera actionable, en fait.
Et que ce sera pris en compte.
Donc, en fait, c'est une culture, c'est un mindset, et c'est encore une fois une confiance de respect mutuel établie entre les différents protagonistes. Et puis, l'envie commune, enfin, d'être tellement passionné par son métier qu'en fait, tu veux juste, tu considères qu'il en va de ton devoir. De faire le mieux possible, et faire le mieux possible, c'est prendre en compte même toutes ces petites choses un petit peu désagréables que tu aimerais mettre sous le tapis, mais qui en vérité peuvent se transformer en éléments assez graves, en fait, down the road, si tu les tacles pas. Donc je dirais que c'est plus un état d'esprit, une culture et un management assez horizontal, hein, qui fait que la voix est libre, en fait. Enfin, la parole est libre. C'est plus ça que l'organisation et la structuration d'outils. T'as plein d'endroits où tu vas mettre en place des outils et t'en tireras pas grand chose.
Les gens
seront morts de trouille et ne diront rien pour ne pas avoir d'ennui, quoi. Parce que parfois, faire remonter certaines choses, c'est aussi admettre qu'on n'y arrive pas, qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'a pas su faire ou qu'on a fait une énorme connerie. Bon, bah, si ça, c'est systématiquement sanctionné, il se passe rien, en fait. On n'apprend pas ensemble et on progresse pas ensemble.
Tout ce que tu me dis depuis le début, c'est pour moi ça fait ressortir tout ce que tu dis au niveau de l'alignement, c'est-à-dire le fait que vraiment il faut être complètement en phase avec ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et ce qui est drôle, c'est que je constate, je sais pas si c'est un choix et c'est ça ma question, c'est qu'en fait t'es complètement aligné puisque toi depuis le début finalement tu travailles dans la cosmétique et on sent dans la manière que t'en parles que cette mission de service d'aider des femmes, je pense, à prendre confiance en elles. C'est en fait le but de la cosmétique.
C'est hyper drôle que tu dises ça parce qu'en fait, je suis en train de vivre une séance de psychanalyse, hein, car je ne me suis jamais posé cette question.
Un peu la psychanalyse.
Non, c'est hyper gratin. Intéressant, mais merci. Latino. En plus, c'est gratuit. Merci, Pauline, vraiment, c'est formidable. moi, je pense que, en fait, c'est marrant parce que moi, quand on me demande de me définir professionnellement, je crois que je dis d'abord que je suis une fille de retail, d'omnicanal, plus que de cosmétique. En fait, j'ai l'impression que la cosmétique, c'est un peu par hasard. Or, t'as quand même raison, il y a un vrai leitmotiv, donc il doit y avoir quelque chose. Là où t'as un point, c'est que moi, je n'envisage pas de vivre et de... En fait, je ne fais pas de distinction entre mes valeurs personnelles et ce que je veux être professionnellement. Je m'explique. Je crois, et ça, c'est très, très profond. Moi, si tu veux, je suis très reconnaissante. Déjà, et c'est très important. Si on ne pose pas ça, on ne peut pas comprendre quelque part la façon dont je fonctionne. Moi, je considère, et parce que j'ai commencé en Amérique latine à l'âge de 23 ans et que j'ai vu ce que c'était que d'être, pour beaucoup, des filles pauvres, sans éducation, sans avenir, sans potentiel, dans des pays machistes, je considère qu'être née femme et avoir eu accès à l'éducation dans un pays comme la France, les probabilités sont déjà tellement faibles qu'en fait, ça oblige. Et moi, je dois tout à l'école, je dois tout à mon parcours scolaire, j'étais boursière en prépa, j'étais boursière à HEC. Ça, pareil, ça oblige, en fait. Moi, j'ai des choses qui m'inspirent beaucoup dans ma vie, qui, pour le coup, sont des concepts, des phrases de philosophes ou des phrases de littéraires qui disent un peu toutes la même chose, qui disent qu'à partir du moment où tu as la chance d'arriver à des responsabilités, tu es obligé d'avoir aussi toi la responsabilité d'en faire quelque chose. Et ce faire quelque chose, il n'est pas que transactionnel, il n'est pas que de création de valeur économique, il est aussi de changer comme tu le peux la vie des gens, les écosystèmes immédiats. Donc concrètement, c'est quoi? C'est promouvoir des gens parfois à qui on n'avait pas nécessairement tendu la main avant parce qu'ils étaient atypiques, mais toi, tu décèles chez eux quelque chose qu'on a pu faire pour moi. Je pense pas être totalement quelqu'un de très, très typique, normé. Il y a des gens qui ont cru en moi, qui m'ont donné des opportunités. J'essaie systématiquement de faire la même chose. Et puis moi, je crois qu'on a tous individuellement un rôle sociétal fort à jouer. Chacun choisit son camp, enfin, je veux dire, son champ d'implication. Mais je crois très fort que c'est par aussi la combinaison de toutes nos actions individuelles et du fait qu'on sera aussi capable de mettre nos entreprises, de mettre nos projets professionnel dans les pas d'un mieux-être social, que tout ça fera du sens. Voilà. Donc, c'est en fait par la prise de conscience de la chance qu'on a, et ça, je le répète systématiquement aux gens, on a une chance formidable, il faut qu'on en fasse quelque chose. Et ça oblige la chance. Et la responsabilité, ça oblige encore plus. Donc, les gens qui ne font que leur job, je ne comprends pas, en fait.
Quand ça t'arrive d'être face à des personnes, peut-être dans ta boîte, que tu n'as pas forcément recrutées d'ailleurs, qui n'ont pas forcément ces mêmes valeurs pour l'instant, en tout cas, qui n'ont pas cette prise de conscience, est-ce que tu essayes de les changer? Est-ce que tu essayes de leur apprendre? Est-ce que tu essayes, en tout cas, de leur partager ce que toi, tu perçois à cet égard? Parce que c'est quelque chose que je ressens aussi de temps en temps. Et je trouve que c'est pas évident, en fait, déjà de faire changer les gens. En plus, je me dis, bon, bah, est-ce qu'il faut que je fasse changer les gens? Est-ce que c'est moi qui ai raison? Pas forcément. Mmh. Et donc, je trouve ça intéressant parce que, à la fois, t'as l'air d'être complètement habité par ça et on sent que c'est quelque chose qui te tient énormément à cœur. Donc, je peux imaginer que t'as envie de le transmettre. On en revient toujours à cette idée de transmission. Mais en même temps, parfois, on se dit, est-ce que c'est mon rôle?
Moi, je me pose pas la question de est-ce que c'est mon rôle, en fait. Cette question-là, je l'ai déjà digérée. C'est mon rôle. Et ce qui est assez intéressant, ma petite expérience... Alors, moi, j'ai la chance d'avoir toujours évolué quand même dans des univers où les gens sont très engagés. Enfin, c'est, tu vois, toujours des marques à mission, des entreprises plutôt, sociétalement très engagées. Donc, d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas de hasard complètement. Enfin, c'est lié aussi au fait que moi, ça me parle et ça me parle depuis très longtemps. Je dirais plutôt dans la vie en général, tu vois, quand tu rencontres des gens qui n'ont pas encore fait forcément ce chemin, que moi j'appelle une forme d'éveil, en vérité. Mais tu sais, moi je ne l'ai pas fait toute seule non plus. Hein. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont éveillée. La première personne que j'ai rencontrée qui m'a éveillée, c'est Tina Kiefer, qui avait créé son école Toutes à l'école. Elle est venue me voir parce qu'elle avait besoin de faire un partenariat pour lever de l'argent. J'étais chez l'Occitane. Au début, on s'est dit Cambodge-Provence, ça ne va pas être simple, cette histoire. Puis on s'est débrouillé parce qu'en fait, on s'est dit, mais on veut soutenir cette femme. Elle est dingue, en fait. Ce qu'elle fait, c'est fou. Et comment ça se fait que le monde entier n'est pas au courant? Et comment ça se fait? Et comment ça se fait? Et t'es tellement visionnaire. Donc, en fait, si tu veux, voilà, elle m'a complètement bluffée. J'ai une admiration sans faille pour cette nana qui est une véritable héroïne. Et donc, à partir de ce moment-là, moi, mon job derrière, c'est de faire en sorte tout make it happen, quoi. Donc, si tu veux, j'ai été éveillée. Et je considère qu'une petite partie aussi de ma petite mission, c'est d'éveiller les gens. Ce dont je me rends compte, parce que du coup, pour le coup, pour mes différentes associations, je rencontre beaucoup de dirigeants, plus des dirigeants hein, que des dirigeantes, et beaucoup de personnes qui ont beaucoup de pouvoir entre leurs mains, qu'ils soient financiers ou qu'ils soient relationnels. La majorité d'entre eux sont plus dans un mode où ils ne se sont jamais vraiment posé la question. Ils n'ont jamais été véritablement mis en face de certaines problématiques. Et quand tu présentes bien les sujets et que tu es très déterminé, hein, en fait, le taux de transformation, pour reprendre des terminologies qui vont nous parler, chère Pauline, hein, sont très élevés. Donc, il faut être... Il faut soi-même se décréter missionnaire de ces sujets, mais je plaisante pas, et aller voir les gens sans arrêt et avec détermination, et tu te rends compte que tu peux faire des choses incroyables. Moi, je dis toujours, et je le dis pas pour faire la maline, je le dis parce que c'est... Enfin, j'espère que ça va motiver des gens. Moi, je suis pas grand monde, enfin, pas grand chose, je fais ce que je peux à ma petite échelle, et depuis... les 18 derniers mois, j'ai levé 2 millions d'euros pour les assos. Mais, enfin, vraiment, avec juste du culot, des vraies convictions.
Oui, et pas dans une période particulièrement
propice.
Pas dans
une période facile, et en pitchant bien les gens, et en leur expliquant à quel point eux aussi pouvaient faire des choses, en fait. Parce que beaucoup de gens se disent même, mais est-ce que tu crois vraiment que ça va changer? Ou est-ce que tu crois vraiment que... Mais oui, en fait. Voilà, aujourd'hui, on a des gens qui nous aident sur de l'accompagnement à la petite enfance, à la maison des femmes, parce qu'ils ont des crèches, ou on est en train de regarder pour créer une foncière pour de l'abri d'urgence pour la Fondation des femmes. Et en fait, tout ça est tout à fait réaliste et faisable, alors que les gens pourraient te dire « Non mais attends, t'es gentil, de quoi tu me parles? C'est très compliqué tout ça, ouais, 2 millions d'euros, c'est énorme, comment fais-tu ?» etc. En fait, si tu veux, ce qui n'existe pas aujourd'hui, et que je trouve assez bluffant, c'est qu'il y a... un monde associatif extrêmement intelligent et plein de ressources et plein d'envie. Et il y a aussi parfois très souvent un monde de décideurs, de corpos, etc., qui aussi a des solutions. Et il y a pas toujours l'entre-deux.
Ouais, il y a pas beaucoup de
Ouais, il y a pas la soudure en fait. Il y a pas la soudure. Alors que quand tu les mets à travailler parce que tu les présentes, quand toi tu te dis OK, là j'identifie un besoin d'un côté et une solution de l'autre et tu sais quoi, on va les matcher. Et on va les faire se rencontrer et on va réfléchir à des projets, etc. Mais en fait, c'est d'une simplicité biblique. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, et je suis pas sûre que ce mot soit très bien compris, mais moi, je crois en l'hybridation et je crois qu'il faut de plus en plus de gens qui soient des passeurs, qui aient la chance, en fait, de, quelque part, de voyager entre ces deux mondes que sont le monde associatif et le monde corpo pour créer la soudure. Et c'est formidable. Enfin, c'est le monde d'après pour moi parce que l'État ne peut plus tout, parce qu'on a tous une responsabilité. Et surtout, quand on a des responsabilités, on a une responsabilité sociale. Enfin, je veux dire, pour moi, elle est induite. En tout cas, je suis câblée comme ça et je ne comprends pas les gens qui ne le comprennent pas. Et parfois, c'est pas grand-chose en plus. Et la majorité des gens ne sont pas malveillants. Ils sont juste apathiques. Mmh. Il faut... Et voilà. Et c'est
Mais
sympa.
Ils ne croient pas qu'ils peuvent avoir de l'impact.
Exactement. Ils ne croient pas qu'ils peuvent avoir de l'impact. Donc, moi, c'est juste mon petit job, c'est ça. C'est faire comprendre aux gens qu'ils peuvent avoir un impact monumental et qu'en plus, ils vont s'éclater à le faire et qu'ils seront tellement fiers parce que quand ils vont raconter ça à leurs enfants à dîner le soir, eh ben, waouh ! Ils vont juste... être des héros à leur niveau. Et puis sur le terrain, ça change considérablement la donne. Et le terrain en a besoin. Parce que c'est dur. Mmh. C'est très, très dur.
Sabrina, justement, pour parler rapidement de ces associations, est-ce que tu pourrais, petit moment pub, hein, mais ouais. Non sponsorisé, vous inquiétez pas, messieurs, dames, justement pour la bonne cause, est-ce que tu peux nous en parler rapidement pour que certaines personnes, si elles sont intéressées, puissent justement
Génial.
Avoir
ouais, ouais.
cet
ah, bah, avec
impact
Avec plaisir, Pauline. Donc, la première, c'est cette association créée par donc Tina Kiefer, qui est une femme incroyable, qui a 42 ans... dirige Marie-Claire, est une journaliste, présentatrice télé à succès, qui a une vie très confortable et qui part au Cambodge, qui plaque tout, pour créer une école, pour sortir des petites filles du quart-monde, de la misère absolue et pour certaines de la prostitution infantile, en créant une école d'excellence pilote. Et elle est en train de créer une espèce d'élite intellectuelle au Cambodge, qui est une élite féminine. Donc en plus, je trouve que c'est un pied de nez assez marrant.
C'est clair.
Donc elle s'appelle Tina Kiefer, l'association s'appelle Toutes à l'école, elle a 1200 petite fille dont elle s'occupe intégralement de la maternelle maintenant jusqu'aux études supérieures. Et elle aura créé tout l'écosystème qui va avec. Elle a créé des dortoirs pour que les gamines puissent sortir de leur bidonville. Il y a des dispensaires, puis tellement d'autres choses. Enfin, je vous invite à checker son travail. Elle est absolument remarquable. Et d'ailleurs, tu sais, j'en appelle même si je ne sais pas, on ne sait jamais, il peut y avoir des bonnes surprises. Je pense qu'elle a véritablement créé un écosystème pilote qui serait hyper intéressant de dupliquer, même
ouais,
dans nos
ailleurs,
pays, en vérité. Donc, j'appelle de mes voeux certains de tes auditeurs à peut-être regarder son travail, on ne sait jamais, à la contacter, parce que je pense qu'il y a des choses à faire, même en France aujourd'hui, dans certains territoires compliqués, éducatifs. C'est incroyable ce qu'elle a fait. Donc, ça, c'est une rencontre, c'est un coup de bol, c'est, voilà, quelqu'un qui se trouve sur mon chemin et dont je tombe pour le coup éperdument amoureuse, qui m'éveille. Et en fait, quand tu rencontres des gens comme ça, tu te dis, OK, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Enfin, je veux dire, t'as pas d'autre choix que de te dire, voilà. La deuxième personne que je croise un peu, alors certains diront pas par hasard, mais bon, quand même par hasard à un dîner, c'est une jeune femme à l'époque, elle a 35 ans, elle s'appelle Anne-Cécile Melfert, elle crée la Fondation des Femmes. Et elle crée la Fondation des Femmes sur un constat très bête qui est, bon, bah, il y a 90 millions pour le Téléthon, 50 millions pour la SPA, rien pour les femmes. Or, il y a plein de situations quand même extrêmement compliquées. Il y a des mères célibataires isolées, il n'y a pas encore la parité absolument, il y a beaucoup de violences faites aux femmes et rien n'est vraiment... Il n'y a pas d'organe consolidateur de tout ça et qui va porter et le juridique et le soft power, donc contre le sexisme ordinaire, et qui va aussi mettre de la pression sur les pouvoirs publics pour légiférer et qui en même temps est un organe de levée de fonds. Et donc je rejoins aussi Anne-Cécile, on travaille ensemble sur différents sujets hein, et aussi principalement la levée de fonds. Donc moi, ce que je trouve incroyable, c'est que tu vois, elle a 35 ans, elle monte ce truc. Aujourd'hui, elle est l'organe de référence en France. C'est remarquable. C'est remarquable et avec vraiment courage et détermination. Et puis, une vision des choses qui est très juste pour moi, puisque elle est féministe, mais elle est féministe avec les hommes, à
ouais.
fond avec les hommes. Et ça, c'est très, très important, parce que la suite de l'histoire s'écrira beaucoup avec les hommes. Et
mais
la
il
dernière,
faut.
Et il le faut absolument, c'est Rada Atem, que j'ai, pareil, eu la chance de rencontrer il y a un peu moins de 2 ans. Et là, c'est encore autre chose. Elle est plus proche d'une Tina, quelque part. C'est la gynécologue obstétricienne de l'hôpital de Saint-Denis qui, un jour, en a marre de récupérer les femmes en fin de parcours, c'est-à-dire quand il faut juste les réparer techniquement par la chirurgie, et décide de créer un centre, enfin une espèce de lieu d'accueil hein, où elle va essayer aussi de limiter les impacts en amont en faisant de la sensibilisation, de l'accompagnement psychologique. Et elle crée cette maison des femmes. Et c'est quand même, enfin tu vois, la maison des femmes de Saint-Denis, c'est 250 mètres carrés et 12 000 consultations par an. Enfin tu vois, c'est quand même des femmes qui sont dans un... Enfin, c'est un sacerdoce, quoi. En fait, elle se lance vraiment en religion. Et moi, elle me bluffe parce qu'elles ont tout en commun. Pour le coup, là, quand on parlait de contrarianes, elles sont contrarianes, hein, mais pour de vrai. C'est-à-dire qu'elles n'acceptent pas le statu quo. Et même si on leur dit « c'est pas possible, ton truc », en fait, elles ont toutes trouvé une façon d'y arriver. Mmh. Tina, elle part au Cambodge. Elle parle pas la langue. Elle est pas native. Les mecs la regardent en disant, mais qu'est-ce qu'elle nous veut, celle-là?
Oui, qu'est-ce qu'elle
crée
là,
une école de maboule. Rada, elle a maintenant sa maison des femmes et elle est en train de lancer la duplication du modèle. Alors que pareil, tout le monde lui disait, enfin, sincèrement, pas sûr que ça marchera ton truc. Et voire même, on lui a mis des bâtons dans les roues. Et je pense que Anne-Cécile, de la même façon, les gens se disaient, bon, c'est mignon, elle joue à la marelle, et puis bon, so what, quoi. Et puis voilà, aujourd'hui, elle a un organe où, je te promets, elle influe sur le débat public. Elles ont tout en commun, donc, d'être assez punk, très drôle, très déterminée, supérieurement intelligente, et d'avoir à cœur de servir la cité. Et donc, pour moi, ce sont des rôles modèles, tout simplement. Donc, quand tu as la chance, en fait, de rencontrer des gens comme ça dans ta vie, mais la moindre des choses, c'est de faire de ton mieux pour les accompagner. Et quand, en plus, elles te disent « j'ai envie de faire un bout de chemin avec toi, est-ce que tu peux m'aider sur ça, ça, ça ?» Mais tu accours. Tu vois, moi, quand je te parle de « ça oblige », ces femmes-là obligent. Vraiment. Et puis, j'apprends tellement à leur contact. J'espère devenir une meilleure version de moi-même aussi, grâce à elle.
Pour terminer, Sabrina, j'ai quelques questions que j'aime bien poser, que j'appelle le crible du gratin. Il y en a une, je vais commencer tout de suite parce qu'on a trop parlé de contrarienne et du coup, tu m'as titillée.
Oh là là là.
J'aime bien demander, je ne sais pas si c'est le cas pour toi, est-ce qu'il y a une croyance, donc quelque chose en quoi tu crois, qui pourtant est controversée ou en tout cas n'est pas universellement partagée?
Écoute, je vais te faire un petit pied de nez rigolo. Tu ne peux pas être féminine et prise au sérieux et efficace. Tu l'aimes bien celle-là?
C'est pas mal.
Avoir des cheveux longs, ouais. Mettre des jupes, porter des talons, être maquillée. Et en même temps, être redoutablement efficace et crédible.
Écoute, ça me va très très bien, je te remercie.
Je trouve que ça te ressemble pas mal.
Écoute, je ne sais pas. Tu me parlais tout à l'heure aussi de citations. Alors là, pareil, tu as aiguisé ma curiosité. Est-ce qu'il y a une maxime, des mots de sagesse, citation, plusieurs citations d'ailleurs, qui te touchent particulièrement et que tu pourrais partager avec nous?
Il y en a beaucoup, mais il y en a une qui, je crois, est un des vrais fondements de ma vie. C'est une phrase de René Char qui dit « Ce qui vient au monde pour ne rien troubler » ne mérite ni égard ni patience.
Alors attends, je vais la répéter, enfin je vais essayer. Ce qui vient
au monde pour ne rien troubler,
ne
mérite ni égard ni patience. C'est beau, hein?
C'est magnifique.
C'est beau et je crois que ça résume pas mal de ce qu'on s'est dit, toutes les deux, jusqu'à maintenant.
Merci Sabrina. S'il y avait quelque chose à refaire dans ta vie, dans ta carrière, personnellement, professionnellement, qu'est-ce que tu referais différemment? Mes questions ne sont pas faciles.
Oui, celle-là n'est pas simple. Je serais plus ronde dans ma façon de m'exprimer, probablement. Je pense que je suis quelqu'un de très direct et qui a été beaucoup, beaucoup sans filtre. Et je pense qu'il y a une force à une forme de rondeur dans l'expression, ce qui n'empêche pas d'être... qui n'empêche pas la détermination. Je pense que ça, c'est des choses que j'ai appris finalement assez tard dans ma vie. En fait, ce qui fait ta force à un moment ne la fait pas nécessairement au moment d'après.
C'est vrai.
Donc, cette espèce de fougue, de tout terrain, d'authenticité vraiment brute hein, va être extrêmement importante dans certains écosystèmes et à certains moments de ta vie. et peut devenir une limite dans le moment d'après. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que justement, tu dois garder ce qui fait le feu, ce qui fait l'élan. Et à chaque fois, l'idée, c'est de s'adapter pour... En fait, tu sais, c'était...
D'être capable de faire les deux, en tout
ouais,
cas.
Oui, mais en fait, tu, parce que tu ne fais pas sans les autres, le moment où tu perds la communication et le fil avec les autres, en fait, tu te plantes, t'es dans un deadlock. Mm. Donc, il est nécessaire de trouver les ressorts pour toujours conserver le lien. Et si dans ce lien, il y a le narratif et la rondeur d'expression, eh ben, ok, ça me va bien.
L'une de tes plus grandes peurs.
Tu vas rire.
Et est-ce que tu l'as surmontée?
Oui, et ben voilà. Donc moi, ma peur absolue, me demande pas pourquoi, je pense que c'est psychanalytique, voilà, je pense que les gens vont se dire elle est cinglée. J'étais
mais
paniquée.
Il y a que des gens cinglés sur le gratin,
mais c'est
ça qui fait
c'est
qu'ils sont sympas.
Bien. Et j'étais paniquée, mais ça c'est pour ça que j'en parle librement, parce qu'il faut le dire aux filles. J'étais paniquée à l'idée d'accoucher. Je me demande
d'accord.
pas pourquoi, j'étais sûre que c'était
un
cauchemar, que j'allais souffrir.
Et t'as des jumeaux, si je me trompe
et
pas en plus.
Et j'ai des jumeaux.
Ouais.
Eh bien, figure-toi que je n'ai rien senti
non.
du tout. Alors, je pense que c'est de par la dextérité incroyable de mon gynécologue que j'aime d'amour, donc je lui rends hommage. Mais au-delà de ça, enfin, cette espèce de truc de « c'est horrible !» Non. Voilà. Et donc, je le dis aux filles, parce que je pense que pendant très longtemps, moi, ça a fait un peu différer mon envie même d'avoir des enfants. J'avais une peur, mais panique de l'accouchement. Et en fait, voilà, tout s'est très, très bien passé. Donc, j'ai envie de te dire que la grande peur de ma vie, je l'ai surmontée. Après, il reste toujours la peur de la mort des gens que tu aimes très, très fort. Et ça, en vérité, j'essaie de pas y penser.
Mmh. C'est pas une peur qu'on a envie de surmonter, je pense.
Exactement.
Dernière question. Le livre qui t'a le plus marqué, que tu le recommandes le plus autour de toi, que tu as envie de partager avec nous?
Il y a tellement de livres qui m'ont marqué, mais il y a un livre qui m'a sidérée. C'est un bouquin de Philippe Roth. Alors, je ne sais pas si on dit Philippe Roth ou Philippe Ross en français, qui s'appelle La pastorale américaine. C'est un livre sur l'absurde, hein. C'est un livre sur la précarité de la vie. Qui m'a vraiment, qui m'a brutalisé, hein, il n'y a pas d'autre mot. Cette espèce de personnage un peu gentil, humaniste, sympa, parfait, qui fait tout bien et qui se retrouve par les méandres, par les hasards de la vie avec une fille terroriste, hein, qui nie cette réalité et qui finalement est obligée d'en arriver au constat que c'est vrai. Et sa vie, en fait, toute cette espèce d'échafaudage de vie parfaite s'effondre. Et je crois qu'il y a... Ça, en fait, si tu veux, dans ça, il y a deux choses, il y a deux concepts forts qui, moi, font que auxquels je crois très fort, qui est l'absurde et qui est la précarité des choses. Et je crois que, paradoxalement, dans ce livre, pour moi, ce que moi j'en ai tiré, je dis pas du tout que c'est... je suis pas sûre qu'il y ait un message particulier, mais en tout cas, ce que moi, ça a mu en moi, c'est parce qu'il y a l'absurde et parce qu'il y a la précarité dans la vie. Encore une fois, on a un devoir de faire émerger du mieux qu'on peut systématiquement et quotidiennement un peu de magie, un peu de sens, un peu d'ordre dans ce bordel et cet effondrement qui peut arriver à tout moment. Et pour pas terminer sur une note sombre, je crois que voilà, ça c'est ce que j'essaie de faire. Un petit peu de joli avec parfois du pas grand-chose.
Sabrina, je pense qu'on ne pouvait pas trouver un plus beau mot de la fin. Je te remercie mille fois pour ton temps, pour ta passion qui est vraiment communicative. Si on veut te retrouver, si on veut te suivre, si on veut te harceler sur le monde du web, parce que je pense que ça va être le cas, où est-ce qu'on le fait? Sur LinkedIn,
oui,
sur Instagram?
Mais même sur Instagram, c'est drôle. J'ai des week-ends où je réponds à 150 messages privés et ça, je trouve ça extraordinaire. Enfin, sincèrement... Oui, au contraire, enfin, n'hésitez pas. Moi, j'adore discuter avec les gens et j'adore rencontrer des gens. Et en fait, tu vois, c'est marrant, toi et moi, on en parlait juste avant de commencer cet échange. Il y a une magie des réseaux sociaux qui est celle-ci. Moi, j'ai rencontré un nombre de gens grâce aux réseaux sociaux et grâce à Instagram, en l'occurrence, incroyable. Et des gens qui même se sont proposés d'eux-mêmes de m'aider dans certaines de mes assos, à lever de l'argent ou pour me présenter des gens. Donc, au contraire, enfin, si vous avez des feedbacks, si vous avez des propositions, si vous avez envie d'aider donc les différentes assos et whatever. Ah, mais au contraire, vous êtes les bienvenus.
Bien, le message est passé, Sabrina. J'espère que vous serez nombreux à contacter Sabrina sur LinkedIn, sur Instagram. Je mettrai en tout cas tous les liens dans les notes de l'épisode. Et puis évidemment, on va sur le site de Mac pour s'abreuver de ces...
Et puis on s'abonne aux nouvelles sessions virtuelles. Tu sais, on fait des masterclass digitalisées avec nos top make-up artistes.
Ah, c'est vrai ?
Ah ouais. On a eu Tom Sapin que je salue ici, Maddy Otto que je salue, qui sont des talents d'une force dingue, qui aiment profondément leur métier et qui ont vraiment envie qu'un maximum, tu vois, de partager leur passion avec un maximum de gens. C'est super humain. Donc, ouais, au contraire, on s'abonne.
Et je mettrai ça dans les notes aussi.
Et on suit les virtual selling de Mac.
Trop bien. Merci beaucoup,
Sabrina.
Je
t'embrasse, Pauline.
Et voilà, fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Et quelques petites choses avant de vous quitter. D'abord, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, bah c'est simple, allez directement sur le blog du podcast. Donc c'est www.le-du6gratin.fr. Vous trouverez normalement toutes les infos dessus. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions, que je mettrai d'ailleurs peut-être un jour sur le podcast, ou me proposer de nouveaux invités, ou juste me faire un feedback, me proposer un livre, peu importe à la rigueur, et bien surtout, n'hésitez pas à le faire. J'aime bien répondre. J'essaie d'être assez active sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn et sur Instagram, qui sont mes deux réseaux sociaux de prédilection. Donc, sous le pseudo Pauline Léniaud, tout attaché, c'est très simple. Dernière chose, un truc qui compte énormément pour moi, et je sais que c'est pénible à faire, mais vraiment ça compte, c'est si vous me laissez une note 5 étoiles ou que vous parlez du podcast autour de vous ou que vous mettez un avis. Et la note 5 étoiles, c'est en particulier sur Apple Podcast, sur iTunes. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il y a le plus d'écoute et avoir des notes, en fait, permet de donner plus de visibilité au podcast. Donc vraiment, vraiment, n'hésitez pas. Et si on est si nombreux aujourd'hui à écouter Le Gratin, à faire partie de cette communauté, bah c'est grâce à vous et justement à toutes ces personnes. C'est plus de 3000, 4000 personnes qui ont à chaque fois pris le temps de mettre des notes. Donc ça m'aide beaucoup et merci à eux. Comme à chaque fois, vraiment un grand, grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt.